vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Impossible de ne pas regarder ce qui se passe chez nos voisins américains. Nous sommes alertés ces dernières semaines par les annonces frappant l'essor des migrants aux États-Unis. Déporter des immigrés sans statut, allonger le temps de détention ou ne plus accorder la citoyenneté aux enfants d'immigrés temporaires sont parmi quelques décrets adoptés récemment ou à la veille de l'être, destinés à modifier les politiques d'immigration aux États-Unis. Le sentiment anti-immigration est également en hausse au Canada et les politiques se durcissent. Jusqu'en Europe et même en France, où le ministre français François Bayrou a même utilisé l'expression « submersion migratoire ». Que dit la science sur les changements de régime et leurs conséquences sur l'immigration ? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux changements politiques actuels et à l'immigration. Les républicains américains ont fait des frontières un enjeu électoral. Maintenant, au pouvoir, ils amorcent un virage plus conservateur des politiques, ce qu'on observe aussi au Canada et en Europe. Donc, pour en parler, je suis en compagnie de Maître Déborah Andrades-Gingras, avocate du cabinet Bellefleur Légal et cofondatrice et présidente du conseil d'administration de la Clinique pour la justice migrante. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Je suis aussi en compagnie d'Elisabeth Rosé-Sec, doctorante en géographie au département donc de géographie de l'Université de Montréal. Vous étudiez les phénomènes migratoires à travers une perspective féministe et queer. Bonjour.
Bonjour.
On est en compagnie aussi de Fanny Martin, candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université Laval et étudiante-chercheuse au Centre d'études pour la citoyenneté démocratique et au groupe de recherche en communication politique. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Donald Trump a lancé une grande offensive anti-immigration. Il y a une criminalisation des migrants et des personnes sans statut sur le sol américain. Ce durcissement face aux migrants s'observe aussi au Canada, tout comme en France. Peut-être pour commencer, Madame Essec, vous êtes une spécialiste en immigration et vous êtes américaine. Comment vivez-vous ce qui se produit de l'autre côté de notre frontière?
Bah, très mal. Enfin, depuis l'élection, depuis l'inauguration, pour les écouteurs et écoutrices, je suis une personne femme blanche, assez comme avec beaucoup de privilèges dans la société américaine. Mais même moi, je vis ça avec beaucoup de crainte, une anxiété qui monte en moi et dans ma famille, on ne peut pas le nier. Mais en tant que experte dans la migration, ce que je vois se passer aux États-Unis et aussi comme peut-être une indice, ce qui est en train de passer partout. On voit une montée du nativisme, du nationalisme qui suit un peu l'érosion des classes moyennes, des services sociaux, des gouvernements néolibéraux un peu partout dans le monde, ici au Canada aussi, en Europe. Et pour moi, cette corrélation entre la montée du nativisme et aussi l'érosion de la stabilité de nos sociétés vont ensemble. Et on voit une redéfinition de qui est un migrant. Et c'est ça qui me fait peur. Ce n'est pas juste les politiques, c'est le sentiment qu'il y a un « nous » qui est de plus en plus rétréci, de plus en plus petit, qui se trouve dans ce « nous » et un « eux » qui devient de plus en plus grand. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on ne sait pas quand cette redéfinition de nous et de eux vont s'arrêter.
Oui, oui, c'est ceux qui sont nés d'un côté et puis les autres, finalement.
C'est ça.
On a vu dans les médias des déportations massives d'immigrants menottés. Maître Andrades-Gingras, au Canada aussi, on connaît des déportations de résidents permanents ayant perdu leur statut. Expliquez-nous ce qui se passe.
Oui, en fait, au Canada, la déportation, c'est la fin, en fait, la fin du système. Si on ne peut pas rester, on doit partir. Mais ce qui arrive, c'est que ici, au Canada, on n'aura pas ce qu'on appelle des déportations un peu spectacle, comme on voit, qui sert un objectif, en fait, pour Donald Trump.
Oui.
Ça va être assez caché et je crois qu'on est au courant quand c'est des cas qui sont médiatisés. On va entendre souvent des histoires de famille, des demandeurs d'asile, etc. Mais il y a aussi des résidents permanents. Je donne un exemple des personnes qui sont venues ici peut-être à l'âge de 5, 6 ans et même plus, par exemple, à l'adolescence, qui ont vécu une bonne majorité de leur vie ici et qui ne considèrent pas d'autres pays comme leur maison, mis à part le Canada. Mais si la personne a commis de la criminalité, alors là, c'est correct de l'envoyer, par exemple, en Haïti, malgré les conditions. Donc, on voit que lorsque le migrant, c'est drôle parce que quand on parlait de la définition du migrant, une personne pourrait peut-être rentrer dans le « nous » quand ça fait, par exemple, des années qu'elle vit ici, qu'elle parle au Québec, qu'elle parle français, sa famille est ici, que sa maison n'est pas ailleurs que le Canada. On pourrait penser qu'elle est dans le « nous », mais dès qu'elle commet de la criminalité, alors là, elle est éjectée du « nous » et devient un « l'autre ». Et là, elle mérite ce qui lui arrive parce que dès qu'une personne n'est pas canadienne, elle demeure dans le système d'immigration qui est basé sur, je crois, le mérite, des privilèges, ce n'est pas un droit. Donc, dès qu'on a commis un impair, et on comprend là, la criminalité, je pourrais comprendre les auditeurs qui se disent « oui, mais la personne avait juste à ne pas commettre de criminalité, tout simplement mm-hmm. ». Mais ça reste qu'une personne qui commet, oui, la criminalité, il y a un contexte aussi. Donc, c'est juste que on voit que quand la personne, on peut la mettre dans la catégorie de criminel, je crois que Donald Trump, c'est ce qu'il essaie de faire. Ça vient justifier qu'on peut les renvoyer dans un avion militaire avec des menottes parce qu'ils ont comme une... On dit qu'ils le méritent. Ils ont commis des impairs. Ce sont des criminels. Ça vient justifier une diminution des droits.
Oui. Madame Martin, on va traverser la frontière et même l'Atlantique. Rapportez-nous un peu ce qui se disent les discours récents au sujet de l'immigration en France et en Europe, mais surtout en France.
Oui, tout à fait. Alors pour répondre à cette question, j'aimerais juste un petit peu recontextualiser aussi par rapport à ce qui se fait en Europe pour les personnes qui ne sont peut-être pas au courant du contexte. C'est qu'on a vu une montée de l'extrême droite récente, je pense donc à l'extrême droite qui participe au gouvernement en Italie, en Hongrie, et donc qui participe aussi à une coalition de gouvernements aux Pays-Bas, en Finlande, en Slovaquie, ou qui soutient le gouvernement sous une participation active en Suède. Et c'est dans ce contexte général en Europe que plus récemment, parce que voilà, c'est quand même important d'avoir ce contexte-là, que plus récemment, ces dernières semaines, en Allemagne, en Belgique, en France, on a remarqué donc des propositions et des mesures de restriction donc et de durcissement des politiques migratoires. Alors par rapport à l'Allemagne, on a vu donc une alliance entre la droite et l'extrême droite pour faire passer un texte de durcissement des politiques sur l'immigration et qui constitue en fait une façon de briser le cordon sanitaire, appelé aussi par feu en Allemagne, et qui représente un virage significatif au regard de l'histoire du pays. Et ça a engendré donc des manifestations massives dans le pays. Par rapport à la composition du texte qu'on a pu retrouver dans la presse allemande, ça va aussi peut-être corroborer par rapport aux propos de ma collègue au préalable, c'est qu'on prévoit l'instauration de contrôles permanents aux frontières, le refoulement de toute personne qui ne possède pas de documents d'entrée valables et qui ne relève pas de la libre circulation européenne, et une mise en détention pour une durée indéterminée des délinquants et des personnes dangereuses tenues de quitter le territoire jusqu'à ce qu'elles soient expulsées. Et pour ce qui est de la Belgique, il y a eu aussi donc une proposition de texte de durcissement de l'immigration sous l'impulsion du Premier ministre conservateur, qui lui prévoit de réduire le nombre d'arrivées en intensifiant les campagnes de dissuasion à destination des candidats à l'asile, qui prévoit aussi la réduction du nombre d'arrivées avec des règles toujours plus strictes et aussi l'intensification de la politique de retour en doublant le nombre de places en centre fermé aussi.
Madame Essec, est-ce que le durcissement de la frontière arrêtera la migration?
Non. On a vu dans l'histoire, on a des données qui montrent que le durcissement de la frontière ne s'arrête jamais la migration. Mais ça change la migration, ça change les moyens que les personnes qui veulent migrer prennent pour arriver à leur destination. Et souvent, les choix qu'ils font sont de plus en plus dangereux. Donc, on voit dans le cas de l'Europe, par exemple, des gens du continent de l'Afrique qui veulent arriver sur les côtes de l'Espagne pour accéder à la libre circulation européenne. Vu qu'il y a un durcissement de la frontière maritime en Méditerranée, il y a des gens qui partent aujourd'hui du Sénégal, de la Mauritanie, qui font des trajets en mer ouverte de plusieurs milliers de kilomètres et qui veulent arriver dans les îles Canaries, mais souvent, ils dérivent et ils n'y arrivent pas. Ils arrivent des mois après au Brésil, évidemment pas vivants. Il y a des gens enfin, sur la frontière canadienne et aux États-Unis qui, depuis la fermeture du Roxham Road, ils ne peuvent plus traverser genre une porte d'entrée non officielle qui est plus ou moins accessible. Donc aujourd'hui, ils sont en train de traverser en pleine forêt pendant une saison hivernale. On a vu une montée des morts sur la frontière américaine-canadienne depuis le changement dans le Safe Third Country Agreement. Je m'excuse de...
Oui, accord des tiers pays sûrs.
Merci. donc, ça n'a pas arrêté la migration, ça a juste changé la migration et ça a fait que la migration soit plus dangereuse. Donc, ça fait des morts, ça fait aussi plus de travail dangereux pour nos agents frontaliers, plus d'argent dépensé. Ça a des impacts qui nous touchent tous.
Oui. Maître Déborah Andrades Chingra, les Républicains ont fait de la sécurité aux frontières un enjeu électoral. C'est une frontière très longue avec le Canada, plus de 6400 kilomètres, avec des points de passage qui ont été fermés. Mais pourtant, est-ce que c'est encore possible de la traverser? Je pense que oui.
Oui, c'est définitivement possible, mais très dangereux. Il y a eu des cas de personnes qui ont des engelures, des gens qui ne sont pas capables de traverser, des morts. C'est pour ça que quand il y a eu la nouvelle de la fermeture du chemin du Roxham Road, j'étais un peu, je ne comprenais pas l'objectif derrière ça parce qu'on perdait un accès à une voie pour traverser qui était sécuritaire pour les gens, mais aussi on savait qui traversait. On pouvait chiffrer ce nombre-là, on avait de l'information et là, on a perdu cette information-là. Donc, je ne comprends pas encore l'objectif qui s'était... aussi, c'est une décision qui vient avant Trump. Donc, ça s'inscrit peut-être dans une stratégie américaine plus large qui n'a pas commencé avec Trump, mais qui était aussi là avec Biden parce que c'est lui qui a négocié avec Trudeau.
Donc, mais aussi canadienne. Il y a aussi une part canadienne.
Oui, définitivement. Définitivement canadienne aussi. Il y a eu des critiques... Par rapport à, vous vous rappelez, durant la COVID, il y avait des autobus qui attendaient les gens, ils pouvaient les répartir dans les provinces. Il y a eu des critiques qui sont fondées, soit que les gens étaient envoyés dans des endroits où il n'y avait pas accès à l'aide juridique notamment, donc là, c'était pas une bonne chose, mais on s'entend qu'il y aurait pu avoir du positif de ça dans la façon de répartir les migrants à travers le Canada. Et là, on a aussi perdu cette possibilité-là parce que là, on ne sait pas qui traverse, ils traversent où. Donc, il y a comme, je crois, un manque de vision ou quels sont les objectifs à long terme. Je ne comprends pas.
Oui. Il y a la frontière, mais il y a aussi les discours. Madame Martin, rappelez-nous ce que le premier ministre français, François Bayrou, a utilisé récemment comme expression et ce que ça signifie.
Oui, tout à fait. Alors, le premier ministre Bayrou a évoqué, donc fin janvier, sur LCI, qui est une chaîne de télévision française, le sentiment de submersion généré par l'immigration. Alors, il a dit ses propos dans un contexte sur la chaîne qu'il a effectivement aussi réitéré à l'Assemblée nationale le lendemain. Donc, on pourrait discuter en longueur de son discours. Le choix de ces mots-là est vraiment symbolique puisqu'en fait, traditionnellement, ce terme de submersion, il est attribué donc à l'extrême droite en France et utilisé depuis les années 80 par Jean-Marie Le Pen, qui est l'ancien dirigeant du Front National en France. Ces dernières années, il est à noter que ce n'est pas la première fois que des acteurs politiques au-delà de l'extrême droite reprennent les mots de l'extrême droite. Alors on pense en 2024 au président Macron qui avait estimé que le programme du nouveau Front populaire était immigrationniste. Et c'est un mot initialement aussi attribué à Jean-Marie Le Pen. Et donc forcément, ces utilisations-là ont une tendance, comme conséquence, à banaliser le discours de l'immigration. Ensuite, au-delà de cet écho à l'extrême droite, avec ces termes, Monsieur Bayrou, il représente donc une métaphore qui renvoie aux catastrophes naturelles, puisqu'il s'agirait de voir arriver des vagues d'immigrants pour submerger les lieux en question, et qui pourrait être interprété aussi comme faisant écho au changement climatique, et qui cherche donc à jouer sur les symboliques autour de la peur et d'une idée d'une immigration massive. Et ce qui renforce aussi par rapport à ce que mes collègues disaient au préalable, c'est qu'il y a une idée aussi de désunionisation des immigrants par rapport à ça. Donc on joue beaucoup sur les symboliques et sur les émotions. Et en politique, les émotions, elles ont beaucoup d'attributs et elles permettent notamment de créer un sentiment d'unité, ce qu'on a dit tout à l'heure, justement entre le « eux » et le « nous ». Et donc ça permet aussi de favoriser l'adhésion à une idée, à un programme et par conséquent d'influer le choix de vote. Alors le Premier ministre Bayrou a parlé, lui, d'un sentiment de submersion. Et donc ça, c'est un sentiment qui ne semble pas en cohérence avec les chiffres, puisqu'il y a des chercheurs en France et en Europe qui ont fait des études qui démontrent qu'on surestime la population étrangère en France et en Europe, puisqu'en fait, on estimerait à 23% donc les étrangers, la population étrangère, alors qu'elle est effective en France, par exemple, entre 8 à 10% en 2023. Donc il y a une surestimation de ce sentiment-là. Et en plus de ça, j'aimerais aussi apporter une nuance, c'est que quand on parle de ce sentiment-là, on rentre en fait dans une idée qu'il y ait une droitisation des citoyens. Et c'est un phénomène qui est très complexe et qui reste à nuancer, parce qu'il y a d'autres travaux, je pense aux travaux de Vincent Tibéri ou de François Héran, mais plus particulièrement les travaux de Vincent Tibéri qui portent sur le temps long, et qui indique que les citoyens, dans l'ensemble, sont plus tolérants sur certaines questions, socio-économiques et culturelles, et notamment sur l'immigration. Donc tout ça reste à nuancer et à comprendre dans sa globalité.
Oui, entendu. Madame Essek, on pourrait penser que le Canada a moins à se reprocher, mais il y a eu aussi des changements récents du côté de l'immigration, n'est-ce pas?
Oui, le Canada, depuis 6 mois à peu près, a beaucoup changé son approche à sa politique migratoire. On a vu un cible pour le nombre de nouveaux résidents permanents à 500 000 il y a une année à peu près. Après l'annonce de cette cible, il y avait un backlash politique. Donc, il y avait des nouveaux chiffres qui sont sortis il y a 4 mois, je crois, qui ont réduit le cible de 500 000 à un peu plus que 300 000. Ça, c'était une chose qui a changé. Pour moi, la chose la plus écœurante, c'est la pause indéfinie du programme de parrainage privé des réfugiés. Pour une des raisons que je suis venue au Canada étudier la migration, mais la migration forcée, c'est parce que le Canada est connu mondialement pour son programme de parrainage privé des réfugiés qui permet aux citoyens canadiens de s'organiser pour accueillir des réfugiés. C'est un programme qui inspire des modèles un peu partout dans le monde. C'est un chemin sécur pour des réfugiés.
Les Syriens, par exemple.
Exactement. Et pas que. Moi, j'étudie surtout la migration des personnes LGBTQ et il y a des organisations, des OBNL qui sont des agreement holders avec le gouvernement canadien pour amener des personnes LGBTQ au Canada pour avoir une protection. Oui, merci. Ce programme a été partiellement mis en pause pour les citoyens et pour les OBNL qui ne sont pas des teneurs d'un accord avec le gouvernement. Pour moi, ce que ça signifie, c'est on prend le droit des Canadiens de agir selon leur mœurs, selon leur éthique. On prend cette opportunité d'avoir un impact dans genre le monde, dans la société. On voit comme une réduction des droits des Canadiens, des citoyens canadiens face à cette comme montée en sentiment anti-migratoire. Actuellement, il y a à peu près 400 lois qui sont en voie de passage aux États-Unis contre la communauté LGBTQ. Depuis l'ordre exécutif de Trump qui disait qu'il n'y a que deux genres, bah, toute la communauté trans est invisibilisée et comme, n'existe plus aux États-Unis. Donc, est-ce que les États-Unis est un pays sûr pour cette communauté? C'est pas certain. Donc, mm-hmm. si le Canada continue de respecter cette attente avec les États-Unis, on met en danger les vies des personnes américaines, aussi des personnes migrantes aux États-Unis qui sont plus en sécurité dans ce pays. S'ils traversent la frontière avec le Canada, ils demandent l'asile au Canada. Cette attente dit qu'il faut qu'ils soient refoulés aux États-Unis où ils sont mis en danger de déportation.
Entendu. Maître Andrades Gingras, on sait aussi qu'il y a une augmentation des dossiers traités par le ministère canadien. Est-ce que si on a vu une croissance? Et j'aimerais peut-être que vous fassiez écho à ce que nous a dit Mme Essec.
Oui, absolument. En fait, par rapport au seuil, mm-hmm. le fait d'abaisser un seuil fait en sorte, je vous donne un exemple, les demandes humanitaires. C'est des demandes de résidence permanente avec des motifs humanitaires. Maintenant, le délai de traitement est à 4 ans. 4 ans, c'est énorme parce que souvent, une personne qui dépose une demande humanitaire n'a pas de statut au Canada et n'a pas droit à un permis de travail. Donc, on parle de personnes qui demeurent sur le territoire sans permis de travail en attente de d'une décision sur leur demande. On s'entend que le délai... parce que le processus de faire une demande humanitaire, pour moi, il est correct, mais le fait que le délai devient aussi long, ça vient un peu rendre un peu caduque cette demande, parce que une personne qui serait déportée avant, eh bien, la demande humanitaire, les derniers chiffres que j'avais, c'était 3% de chance de réussite. Donc, dès que la personne est déportée, cette demande-là, est-ce qu'elle va être acceptée? L'agent va dire, bien, écoutez, vous êtes déporté, puis c'est tout, là. Donc, ça fait en sorte que, oui, les délais dans le système d'immigration, le ministère d'immigration, rend des demandes caduques, donc met à mal l'efficacité du système et ce que la loi prévoit comme des mécanismes que les gens peuvent emprunter.
C'est dissuasif, finalement.
Bien, en fait, c'est que les personnes vont le déposer, vont dépenser de l'argent aussi parce mm-hmm. qu'ils se disent « j'ai pas d'autres options ». Mais un autre exemple que je peux donner, parce qu'une demande humanitaire, souvent, c'est des demandeurs d'asile déboutés, par exemple, mais il pourrait y avoir un Américain qui viendrait au Canada en disant « écoutez, je vais pas demander l'asile, mais je vais faire une demande humanitaire ». Parfois, des Américains, moi, j'avais une dame, en fait, ses enfants avaient été enlevés par son mari. Elle était américaine, mais ses enfants avaient une vie ici, donc elle demandait. Elle a reçu la résidence permanente, donc c'est pas un obstacle d'être américain. Mais par exemple, une personne qui aurait fait partie d'un groupe qui voulait renverser une dictature. Et une dictature, c'est pas facile à renverser. Donc, dès qu'on utilise, par contre, la violence, on est interdit de territoire au Canada parce qu'on doit pas faire ça. On aurait dû le faire pacifiquement. Et il y a la notion de membre est extrêmement large. Donc, même si la personne ne participe à aucun combat, même si la personne n'était pas au courant des actions de son groupe, elle n'assistait qu'à des petites rencontres. On va dire qu'elle était membre, mais elle est quand même interdit territoire. Mais on dit, il y a un recours, c'est la dispense ministérielle. C'est le ministre qui va se pencher sur votre demande et va dire, OK, je comprends, vous n'êtes pas un danger. Mais en ce moment, les délais, c'est 7 à 10 ans.
Oh, c'est énorme, donc, c'est énorme. Oui.
Ça fait que le mécanisme est prévu dans la loi, mais est-il vraiment efficient?
Oui, oui. Madame Martin, je vais terminer avec vous. Comment comparer les discours nord-américains et ceux issus de l'Europe? Une petite mise en perspective des deux, finalement.
Oui. Alors, je voudrais quand même souligner que, vous vous en doutez, c'est jamais évident de comparer des discours et des pratiques en dehors de leur contexte politique. Oui. Parce que c'est sûr qu'il est toujours idéal de replacer dans, dans le contexte pour comprendre la subtilité de ces discours, l'idéologie qui va derrière, par rapport à quel type d'acteurs politiques ils sont cités, ils sont dits, leur historique, les différents jeux institutionnels, parce que là, comme vous le savez, entre l'Europe, la France et les États-Unis, on a un contexte institutionnel qui est vraiment, vraiment différent, notamment aussi au niveau des acteurs politiques et des différents partis. Mais c'est sûr que si on observe déjà donc un premier jet, il est évident qu'il y a un des points communs quant à la volonté de maîtriser et d'apporter des discours et des pratiques plus restrictives sur cette question de part et d'autre de l'Atlantique. Et après, quant à comparer vraiment les discours, c'est sûr qu'on observe des différences, comme on peut le voir, et je pense que là, par rapport à, pour revenir à notre point de départ, c'est important de voir comment on parle de l'immigration, des immigrants, donc de voir les mots tels quels dans le discours, et de voir aussi, pour comparer justement ce qui est fait de part et d'autre, de voir aussi les mises en pratique de ces discours, pour voir s'il y a une cohérence entre les discours et les pratiques. Ça permet aussi également de mettre en perspective. Et donc là, effectivement, on a vu que ça avait une cohérence du point de vue de la campagne électorale de Trump et de sa première loi qui a été promulguée, qui porte justement sur l'immigration pour son deuxième mandat. Donc voilà, il y a, je pense, une mise en perspective à faire par rapport au discours qui peut être dit et après à la mise en pratique sur le sol américain, mais aussi sur le sol canadien. Pour ce qui est du Canada, je ne vais pas reprendre forcément les propos qui ont été dit par mes collègues, mais c'est sûr qu'en ce qui concerne les discours, de mon point de vue au Canada, dans le cadre des échéances électorales qui nous attendent, il est encore un petit peu trop tôt pour voir comment le discours va porter sur l'immigration à ce jour.
On va être attentif, on va inviter tout le monde à ouvrir les oreilles pour voir comment on parle des migrants et de l'immigration. Donc merci beaucoup, on était en compagnie de Fanny Martin, candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université de Laval, d'Elisabeth Rosé-Sec, doctorante en géographie au département de géographie de l'Université de Montréal, et de Maître Déborah Andrades-Gingras, avocate du cabinet Bellefleur Légal, et aussi cofondatrice, présidente du conseil d'administration de la Clinique pour la justice migrante. On mettra le lien. Merci.
Merci.
Merci, au revoir.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour Je vote pour la science. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre notre page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. En attendant, je vous souhaite de passer une très très belle semaine à notre antenne.
Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.